Chapitre 12. Entre Londres et le Hampshire. Le grand hôtel des Crawley, situé à Great Corn Street, vit de nouveau briller sur sa façade l'écusson de la famille, en signe de deuil et comme témoignage de la douleur que causait la mort de Sir Pitt Crawley. Toutefois, on pouvait remarquer jusque dans cet emblème héraldique un éclat inaccoutumé qui, aussi bien là que dans tout le reste de la maison, n'avait jamais existé du vivant du dernier baronnet. La couche noirâtre et antique qui donnait à la maison un aspect maussade et triste avait disparu pour laisser voir l'écarlate des briques qu'encadraient gaiement des filets de plâtre. Le lion de bronze servant de marteau avait été redoré à neuf et les grilles repeintes. En un mot, cette demeure, autrefois la plus sinistre de Gaunt Street, était devenue la plus coquette de tout le quartier. La transformation avait eu lieu avant même que dans le Hampshire, les premiers jets de la verdure eussent remplacé les feuilles jaunâtres qui couvraient les arbres de Crawley quand le vieux Sir Pitt traversa pour la dernière fois l'avenue du château. Chaque jour, on voyait arriver une petite femme dans un coupé de même taille pour surveiller les travaux qui se faisaient dans cette maison. Une vieille fille, escortée d'un petit garçon, s'y rendait aussi chaque jour. Le petit garçon et la vieille fille étaient Miss Briggs et le petit Rawdon, chargés tous deux d'inspecter les embellissements qui transformaient la maison de Sir Pitt, de surveiller les ouvrières, de couper et coudre les rideaux et les tentures, de passer en revue et secrétaire et commode, et tous les réduits où se trouvaient entassés les reliques poudreuses de la famille, avec les faux bijoux qui avaient brillé sur la tête de plusieurs générations féminines, enfin de faire l'inventaire de la porcelaine, de la verrerie et autres objets qui garnissaient les tablettes de l'office. Dans tous ces arrangements, Mrs. Rawdon Crawley avait la haute main. Elle tenait de Sir Pitt un plein pouvoir. Son bon plaisir décidait seul de la vente, de l'achat ou de la suppression. Elle avait ainsi l'occasion de faire preuve de bon goût, et elle en était enchantée. Ses réparations avaient été décidées à la suite d'un voyage de Sir Pitt à Londres, où il était venu voir ses hommes de loi, et avait passé une semaine à Curzon Street, dans la maison de son frère et de sa belle-sœur. Il était d'abord descendu à l'hôtel, mais Becky, instruite de l'arrivée du baronnet, se transporta en personne auprès de lui, et une heure après, le ramenait en triomphe à Curzon Street. Comment refuser une hospitalité offerte avec tant de franchise et par une aussi aimable petite créature? Becky prit la main de Sir Pitt et la serra avec toute l'effusion de la reconnaissance lorsqu'il eut accepté sa proposition. « Merci, lui dit-elle, en abaissant sur lui un regard qui fit rougir le baronnet. Voilà qui va rendre Rawdon bien joyeux. » Elle voulut s'assurer par elle-même que rien ne manquait dans la chambre de Sir Pitt, que les domestiques avaient eu soin d'y porter ses paquets. Enfin, elle y vint elle-même avec le seau à charbon à la main. Le feu flambait déjà dans la cheminée. On avait installé Pitt dans la chambre de Miss Briggs, qui était allée prendre ses quartiers à l'étage supérieur. « J'étais sûre que vous ne pourriez me refuser de venir ici, » lui disait-elle avec des yeux rayonnants de plaisir. Et, en effet, elle était ravie de pouvoir lui donner l'hospitalité chez elle. Becky s'arrangea de manière à ce que Rawdon fût obligé d'aller prendre deux ou trois fois ses dîners dehors. C'était pour le baronnet de délicieuses soirées que celles qu'il passait dans le tête-à-tête avec Becky et avec Briggs. Becky surveillait elle-même la cuisine et la confection des plats, qui avait aussi la préférence de son cher beau-frère. « Comment trouvez-vous ce salmi ?» lui disait-elle. « Je l'ai fait moi-même à votre intention. Je sais encore bien d'autres friandises, et ce sera pour quand vous viendrez encore me faire visite. Tout ce que vous touchez devient parfait entre vos mains, disait le galant baronnet, et ce salmi est des meilleurs. Quand on est à la tête d'un pauvre ménage, reprenait alors Rebecca avec une pointe de bonne humeur, on doit chercher tous les moyens de se rendre utile. À quoi son beau-frère répondait qu'elle aurait été digne d'épouser un empereur, et que cette habileté dans les soins domestiques était assurément des plus précieuses chez une femme. Sir Pitt était naturellement porté à faire, à part lui, une comparaison fâcheuse entre sa belle-sœur et sa femme. Il ne pouvait oublier une certaine pâtisserie que Lady Jane lui avait servie à dîner et qui était la plus détestable chose dont il eût jamais goûté. pour assaisonner le salmi qu'elle avait fait avec des faisans de Lord Steyne, Becky servit à son beau-frère une bouteille de petit vin blanc que Rodon lui avait apporté de France et qu'il s'était procuré pour rien, à ce que disait celle qui le versait. Ce vin, en effet, provenait des fameuses caves du marquis de Steyne, et il ramena bien vite la chaleur aux joues glacées du baronnet et ranima les forces de cette débile créature. Lorsque la bouteille fut vidée, Becky prit son beau-frère par la main pour le conduire dans le salon. Après l'avoir fait asseoir sur le sofa au coin du feu, elle eut l'air de prendre le plus grand intérêt aux tirades qu'il se mit à lui débiter. Quant à elle, pendant ce temps, assise à côté de lui, elle ourlait une chemise pour son cher petit garçon. Mrs. Rodon ne manquait jamais de tirer cette chemise de sa boîte à ouvrage, toutes les fois qu'elle voulait se donner une contenance humble et vertueuse. Le petit Rodon était devenu trop grand pour cette chemise longtemps avant qu'elle fût terminée. Rebecca écoutait Sir Pitt, causait avec lui, chantait pour le distraire et savait si bien le flatter et le prendre qu'il était enchanté lorsqu'à la fin du jour, ayant fini avec ses hommes d'affaires, il rentrait à Curzon Street et y goûtait les plaisirs du coin du feu. Les hommes de loi y trouvaient aussi leur compte, car Sir Pitt commença dès lors à leur faire grâce des discours jusqu'alors interminables qu'il leur adressait. Le moment du départ fut pour lui fort douloureux et fort pénible. Elle lui faisait signe de la main avec une grâce charmante, tandis que la voiture s'éloignait, et lui, de son côté, agitait son mouchoir. Quant à elle, ce fut encore une occasion de faire croire qu'elle versait des larmes, tout au moins elle essuya ses yeux. Dès que Pitt eut perdu de vue cette ravissante petite femme, il rabaissa sa visière sur sa figure, s'enfonça dans son coin, se mit à réfléchir qu'elle l'avait entouré de tous les égards dont il était digne sans contredit. Que Rodon était un imbécile de n'avoir pas su apprécier une pareille femme comme elle le méritait, et qu'enfin sa femme à lui était une niaise et une sotte auprès de cette séduisante petite Becky. Becky avait peut-être contribué pour beaucoup à réveiller toutes ces idées dans son esprit, mais quand et comment, on serait en peine de le dire, tant la petite enchanteresse mettait toujours de grâce et d'habileté dans sa manière de se conduire. Avant le départ de Sir Pitt, il avait été convenu que les deux familles se réuniraient à la campagne pour célébrer la Noël. « Que n'avez-vous trouvé le moyen de lui tirer un peu d'argent ?» dit Rodon d'un ton boudeur à sa femme, quand le baronnet fut parti. « Il m'eût été bien agréable de donner un petit acompte à ce pauvre Raggles, en vérité, je vous le jure, car je m'en veux de laisser ainsi ce pauvre diable à découvert de si fortes avances. Sans compter que quelque beau matin, il pourrait bien nous mettre dans la rue pour louer à d'autres. « Dites-lui, répondit Becky, qu'aussitôt les affaires de Pitt arrangées, on paiera toutes les dettes. En attendant, vous pouvez lui remettre un petit acompte. C'est un billet que Pitt a laissé pour son petit-neveu. » Nous devons cette justice à Rebecca, qu'elle avait sondé auprès de Pitt le terrain sur lequel son mari aurait voulu la voir s'aventurer, mais qu'elle avait dû s'arrêter dès les premiers pas dans cette exploration délicate. En effet, la moindre allusion à leurs embarras suffisait pour rembrunir aussitôt la figure de Sir Pitt et lui donner un air gêné. Il s'étendait alors en longs discours sur l'état de pénurie où il se trouvait lui-même, et ne tarissait point en plainte sur l'inexactitude de ses fermiers dans leurs paiements, sur la situation embarrassée des affaires de son père, sur les dépenses qu'avait occasionné le décès du vieillard, sur l'obligation de purger toutes ses hypothèques, sur les nombreux emprunts qu'il avait déjà faits à ses banquiers et à ses agents. Le nouveau baronnet en sortit par un adroit détour. Il donna à sa belle-sœur un banknote pour son petit garçon. Pitt soupçonnait bien la détresse à laquelle devait en être réduite la famille de son frère. Un diplomate aussi consommé et aussi pénétrant que lui avait dû deviner sur le champ que la famille Rodon était dénuée de toute ressource, et il se sentait en proie à de secrets remords en songeant que c'était lui qui avait accaparé l'argent qui, selon toutes les prévisions, aurait dû revenir à son jeune frère. La simple équité lui disait qu'en bonne conscience, il était tenu à quelque compensation envers ses parents dépouillés. Un homme au courant des convenances, doué de bon sens, remplissant ses devoirs religieux et ayant appris son catéchisme, un homme enfin qui s'appliquait à mener une vie régulière en ce monde, ne pouvait se dissimuler que l'héritage qu'il avait mis à la tête de toute la fortune l'avait en même temps constitué le débiteur de son frère. Mais de pareilles restitutions sont toujours pénibles à faire, et un homme d'ordre et de sens souffre toujours de se voir réduit à écorner si largement son capital. On veut bien gaspiller son argent pour se faire une réputation de libéralité, pour se procurer tous les plaisirs imaginables, tels qu'une loge à l'opéra, des chevaux, de grands dîners, et même la petite gloriole de faire la charité, pourvu que ce soit en public. Mais on débattra le prix de la course avec un cocher de fiacre, et on refusera une obole à un parent dans la détresse. C'est en conséquence de ces dispositions innées dans l'humanité que Sir Pitt, tout en reconnaissant que son devoir l'obligeait à faire quelque chose pour son frère, remettait à un autre temps le soin d'y réfléchir. Becky, de son côté, savait le fond que l'on doit faire sur les instincts généreux du prochain. Elle se trouvait déjà très satisfaite des procédés de Pitt à son égard. Lui, le chef de la famille, ne l'avait-il pas reconnu pour sa belle-sœur? S'il ne lui donnait rien maintenant, il lui vaudrait par la suite quelque chose qui certainement est aussi précieux que l'argent, à savoir le crédit. Ruggles, témoin de la bonne harmonie qui régnait entre les deux frères, se montrait déjà plus coulant envers les époux Rodon. Et puis, ne venait-il pas de recevoir un léger raconte, et ne lui avait-on pas fait entrevoir que, dans un assez bref délai, il en recevrait un nouveau, plus considérable encore? En payant à Miss Briggs les intérêts échus à la Noël pour la petite avance qu'elle avait faite à Rebecca, celle-ci lui dit en confidence qu'elle avait consulté Sir Pitt, fort au courant des questions financières, sur le meilleur placement que Briggs pourrait faire du reste de son petit capital. Sir Pitt, après de mûres réflexions, avait trouvé pour Briggs quelque chose de sûr et d'avantageux, car Sir Pitt ne pouvait oublier que Miss Briggs avait été l'amie de sa chère tante Crowley et l'avait veillée jusqu'au dernier soupir, et à ce titre elle avait droit à l'affection de tous les membres de la famille. En conséquence, avant de quitter la ville, Pitt avait bien recommandé que Briggs tînt son argent tout prêt afin de saisir l'occasion qu'il avait en vue. La pauvre Briggs ajouta une entière confiance à l'air candide, à la joie avec laquelle Rebecca lui annonça cette nouvelle. Cette attention de Sir Pitt la toucha au plus haut degré. C'était pour elle un bonheur inespéré. Comment eût-elle songé autrement à retirer son argent du 3%? Et puis c'était surtout la manière délicate dont le service était rendu. Briggs promit donc de voir le jour même son homme d'affaires, afin que son petit pécule fût prêt au moment opportun. L'honnête fille fut si reconnaissante de tant d'intérêt de la part de Becky et de son digne mari le colonel, qu'elle consacra presque toute la moitié de son revenu d'une année à acheter une jaquette de velours au petit Rodon, qui, pour le dire en passant, n'était plus d'âge ni de taille à porter une jaquette de velours, mais bien à prendre le pantalon et la veste. C'était un joli enfant à la figure ouverte et riante, aux yeux bleus et animés, à la chevelure bouclée et flottante, au cœur sensible et généreux, fort disposé à aimer tendrement tous ceux qui témoignaient de l'affection à lui, à son poney, à Lord Charlestown qui le lui avait donné. Quand il voyait arriver cet excellent jeune homme, sa figure devenait toute rouge de plaisir. Il ne voulait pas non plus qu'on fît de la peine au groom qui soignait son poney, à la cuisinière qui lui préparait des friandises pour son dîner et lui racontait le soir des histoires de revenants. À Briggs, qu'il faisait enrager par ses gamineries, à son père surtout, dont nous signalons l'attachement pour le petit bonhomme comme chose surprenante et presque incroyable d'une pareille nature. Lorsque le bambin eut atteint ses 8 ans, il n'avait plus de tendresse et d'affection que pour son père. Quant au prestige séduisant à travers lequel sa mère lui était d'abord apparue, il s'évanouit bien vite à ses yeux. À peine lui adressait-elle la parole une fois par hasard, elle l'avait pris en aversion. L'enfant avait eu la rougeole et la coqueluche. Il ne lui en fallait pas davantage pour la dégoûter de la maternité. Un jour, il était descendu de sa demeure aérienne, attiré par la voix de sa mère qui chantait pour distraire Lord Steyne. L'enfant s'était glissé sur la pointe du pied jusqu'à la porte du salon. Tout à coup, la porte s'entr'ouvrit. Il laissa apercevoir le petit espion qui écoutait, plongé dans l'extase et le ravissement. Sa mère s'élança sur lui, lui administra deux ou trois paires de soufflets, au milieu des éclats de rire du marquis, que cette scène de brusquerie et de vivacité de la part de Rebecca eut l'air d'amuser beaucoup. Le pauvre enfant s'enfuit auprès de ses amis de la cuisine, où il alla cacher ses pleurs et ses sanglots. « Ce n'est pas parce qu'elle m'a battu, disait-il d'une voix entrecoupée, mais c'est que... » Et alors les sanglots et les pleurs, recommençant de plus belle, emportaient comme une avalanche le reste de ses paroles. C'était le cœur du pauvre enfant qui avait le plus souffert de ce rude accueil. « Pourquoi ne veut-elle pas que je l'écoute chanter, puisqu'elle chante bien pour ce vieux monsieur à tête chauve qui a de si grandes dents ?» Ces paroles étaient entrecoupées par des explosions de rage et de douleur. La cuisinière regardait la femme de chambre, la femme de chambre regardait le cocher d'un air goguenard et malicieux. Le terrible et sévère tribunal qui siège à la cuisine, et auquel rien n'échappe dans aucune maison, se trouvait en ce moment assemblé pour prononcer sur le compte de Rebecca. Après cette petite aventure, l'aversion de la mère pour le fils se changea en haine. La présence de l'enfant dans la maison était devenue un supplice pour elle, en accusant à tout moment son indifférence pour son fils. Et par un retour tout naturel et tout simple, la défiance, la crainte et l'esprit de révolte s'emparèrent dès lors du cœur de l'enfant. Depuis le jour des soufflets, une antipathie profonde s'éleva entre ces deux êtres pour croître de plus en plus par la suite. Lord Steyne n'aimait pas davantage cet enfant. Quand il le rencontrait, il avait toujours à son adresse ou un coup d'œil menaçant ou une mordante raillerie. Et le petit Rodan, sans se laisser intimider, se campait fièrement devant lui et se risquait même jusqu'à lui montrer le poing par derrière. Il le regardait comme son ennemi, et de tout ce qu'il voyait chez sa mère, c'était celui qui soulevait le plus sa colère. Un jour, le valet de chambre le trouva dans l'antichambre, écrasant à coups de poing le chapeau de Lord Steyne. Le valet de chambre raconta cette espièglerie au cocher de Lord Steyne. Le cocher le répéta au valet de monsieur et à tous les domestiques de l'office. À quelque temps de là, Mrs. Rodan Crowley étant venue à une des fêtes données par Milord, le portier qui se tenait sur la porte de sa loge, les domestiques qui se croisaient dans la cour, les laquais en habit blanc qui répétaient de salle en salle le nom du colonel et de Mrs. Crowley, se faisaient de petits signes d'intelligence comme des gens qui savent à quoi s'en tenir ou du moins qui croient le savoir. Le valet qui circulait avec le plateau de rafraîchissement s'avança vers elle pour lui en offrir et se divertit ensuite à ses dépens avec le gros maître d'hôtel en culotte courte qui l'accompagnait pour recevoir les verres. C'est une bien terrible chose que cette inquisition exercée par les domestiques, par ce tribunal sans appel qui avait frappé Rebecca d'une sentence plus inflexible encore qu'autrefois celle du Vehmgericht. Nous dirons plus encore. Ils eussent cru à l'innocence de Rebecca que sa réputation n'en aurait pas été moins compromise. Alors que l'on voyait briller à la porte de l'enchanteresse les lanternes de la voiture du marquis de Steyne jusqu'à des minuit passés, comme disait Raggles d'un ton dolent, cela accusait Rebecca bien plus hautement que toutes ses coquetteries et ses intrigues. Sans qu'il en coûtât rien à sa vertu, nous aimons à le croire, Rebecca s'agitait et se donnait beaucoup de mal pour arriver à avoir ce qu'on appelle une position dans le monde. Mais il n'en est pas moins vrai que déjà les domestiques avaient prononcé contre elle un verdict réprobateur et qu'elle était sous le coup d'une fâcheuse suspicion. C'est ainsi que l'araignée, après avoir laborieusement tissé la toile qui doit fournir à son existence, est emportée d'un coup de plumeau avec le chef-d'œuvre qu'elle vient de faire. Un jour ou deux avant Noël, Becky partit avec son mari et son fils pour aller passer les fêtes à Kroll et la reine dans le manoir de ses ancêtres. Becky aurait volontiers laissé son petit bambin à la maison, et c'est ce qui serait arrivé à l'enfant sans les vives instances de Lady Jane et les reproches qui lui venaient de Rodan au sujet de son insouciance et de sa froideur pour son fils. « C'est le plus bel enfant de l'Angleterre, » disait Rodan à sa femme d'un ton de reproche, « et votre épagnole semble avoir la préférence dans vos affections. Il ne sera pas pour vous un bien grand embarras à Crowley. On l'enverra avec les bonnes, et pour le voyage, je le prendrai sur la banquette à côté de moi. Ou vous ne serez pas fâché d'aller vous-même pour fumer vos affreux cigares, » répliqua Mrs. Rodan. « Je me rappelle un temps où vous ne faisiez pas la petite bouche, lui répondit alors son mari. Becky, ce jour-là, était bien disposée. C'est alors que je n'étais que surnuméraire, entendez-vous, gros bêta, et maintenant je suis en titre. Emmenez Rodé si cela vous plaît. Je vous conseille même de lui donner un cigare pendant que vous êtes en train. » M. Rodin jugea avec sa pénétration habituelle qu'un cigare n'était pas suffisant pour aider son bambin à supporter l'effroi de l'hiver. En conséquence, assisté de Briggs, il l'emmaillota soigneusement dans les châles et les couvertures, puis on le hissa sur l'impériale de la diligence, et nos voyageurs se mirent en route par une matinée sombre et brumeuse. L'enfant était ravi de voir se lever l'aurore et d'aller à la maison, comme disait encore son père. C'était pour le petit Rodin une véritable partie de plaisir. Les 1000 petits incidents de la route étaient pour lui l'occasion d'une intarissable gaieté. Son père ne laissait aucune de ses questions sans réponse et lui disait à qui appartenait cette grande maison qu'on apercevait sur le bord de la route et le parc qui la voisinait. Sa mère, à l'intérieur de la voiture, où elle se trouvait avec sa femme de chambre, ses fourrures, son manteau, son flacon d'essence, se donnait des airs à faire croire que c'était la première fois qu'elle voyageait dans une voiture publique. Aucun de ses compagnons de route n'aurait pu s'imaginer que, 10 ans auparavant, elle avait été obligée de se mettre sur l'impériale pour donner sa place à un voyageur payant. Il faisait déjà nuit lorsqu'on arriva à Mudbury. Le petit Rodin fut transporté à moitié endormi dans la voiture de son oncle. Il regarda avec des yeux ébahis les grilles de fer qui roulaient sur leurs gonds à l'approche de la voiture, les piliers blanchis à la chaux et surmontés de la colombe et du serpent. La voiture s'arrêta enfin devant le perron du château, qui brillait d'un air de fête en l'honneur de la Noël. La porte d'entrée s'ouvrit pour les nouveaux arrivés. Un grand feu pétillait dans l'âtre et un tapis couvrait les dalles disposées en damier. « C'est le vieux tapis de Turquie qui était autrefois dans la grande galerie », se disait Rebecca tout en embrassant Lady Jane. Puis elle échangea avec Sir Pitt un salut plein de gravité. Quant à Rodin, qui avait fumé tout le long de la route, il se tint à une certaine distance de sa belle-sœur, dont les deux enfants s'étaient approchés de leur petit cousin. Mathilde l'avait déjà pris par la main après l'avoir embrassé, et Pitt Binkey Southdown, héritier présomptif du nom et de la fortune, s'était planté devant lui et le toisait de bas en haut, à la façon des roquets qui examinent un bulldog. La maîtresse de la maison conduisit ses hôtes dans les chambres qui leur étaient destinées, et où pétillait déjà un feu des plus réjouissants. Les demoiselles Crowley ne tardèrent pas à arriver auprès de Mrs. Rodin, sous prétexte de venir voir si elle ne pourrait lui être de quelque utilité, mais en réalité pour avoir le plaisir de passer en revue les toilettes que ces mâles renfermaient, et qui, bien que noires, étaient du moins à la dernière mode de la capitale. Ces demoiselles la mirent au courant de toutes les améliorations apportées dans le château, du départ de la vieille Lady Southdown, de la popularité de Pitt, de sa dignité enfin, à porter le nom de Crowley. La cloche du dîner s'étant fait entendre, la famille se réunit dans la salle à manger. Le petit Rodin fut placé à côté de sa tante, que ses gâteries rendaient l'idole de tous les enfants. Sir Pitt fit mettre à sa droite sa belle-sœur, à laquelle il témoignait des attentions particulières. Le petit Rodin mangea de fort bon appétit, et avec la gravité d'un petit monsieur. « J'aime bien dîner ici, » dit-il à sa tante à la fin du repas, en souriant à cette femme si bonne et si affectueuse. « Oui, j'aime bien dîner ici. »« Et pourquoi ?» fit la douce Lady Jane. « Parce que chez nous, je dîne à la cuisine ou bien avec Briggs, » répondit le petit Rodin. Becky était trop occupée à complimenter le baronnet de la beauté, de l'esprit, de l'expression fine et vive du jeune Pitt Binkey, admis à table au moment du dessert et placé à côté de Sir Pitt, pour entendre les trop justes plaintes qui sortaient de la bouche de son enfant à l'autre extrémité de la table. En sa qualité de visiteur et pour fêter sa première soirée au château, le petit Rodin eut la permission d'attendre le thé. Une fois les tasses enlevées, un livre à tranches dorées fut placé devant Sir Pitt. Tous les domestiques entrèrent dans la pièce, et Sir Pitt lut à haute voix la prière du soir. Cette pieuse cérémonie était, hélas pour le petit Rodin, chose toute nouvelle et inconnue. La présence du nouveau baronnet s'était déjà fait sentir dans le château par de nombreuses améliorations. Becky, toutes les fois qu'elle était en compagnie de Sir Pitt, ne manquait jamais de trouver tout charmant et délicieux. Quant au petit Rotten, dont les deux enfants s'étaient emparés pour le conduire partout, il se croyait, au milieu de ses ravissements, transporté dans un palais des mille et une nuits. C'était une suite sans fin de longues galeries, de chambres d'apparat ornées de tableaux, de moulures et de porcelaines. Ils montrèrent au petit Rodan la chambre où leur grand-père était mort et dont il ne franchissait jamais le seuil qu'avec un certain effroi. « Qu'est-ce que c'était donc que ce grand-père-là ? » leur demanda le petit Rodan. Les enfants lui racontèrent que c'était un homme qui était très vieux, qu'on le traînait dans un fauteuil roulant, et ils lui montrèrent une fois ce fauteuil qui était resté dans une serre du jardin depuis l'époque où leur grand-père avait été emporté dans une église bien loin, et dont on voyait briller le clocher au-dessus des armes du parc. Les deux frères occupèrent plusieurs matinées à aller rendre visite aux changements qu'une entente économique et intelligente des affaires avait suggéré à Sir Pitt. Tout en passant cette inspection, soit à pied, soit à cheval, ils s'entretenaient de différentes choses qui les intéressaient fort tous les deux. Pitt eut soin de répéter sur tous les tons à Rodan que ses travaux avaient nécessité de sa part de gros emprunts, qu'un propriétaire rural en était bien souvent réduit à courir après 20 livres. « Vous voyez, disait Sir Pitt avec un air de bonhomie, les réparations qu'on vient de faire à la loge du concierge. Eh bien, il me serait aussi impossible de payer le maçon avant le mois de janvier que de prendre la lune avec les dents. « Si vous voulez, je vous ferai cette avance, mon cher Pitt, dit Rodan d'un air désappointé. Les deux frères entrèrent alors dans la loge, au-dessus de laquelle on apercevait les armes de la famille nouvellement sculptées, et où la vieille Loquise se trouvait pour la première fois à l'abri du vent et de l'eau, grâce aux réparations qu'on venait d'y faire. Chapitre 13. Entre le Hampshire et Londres. Pitt Crawley ne s'était pas borné, dans ses nouveaux domaines, à boucher les trous des murs et à restaurer la loge du portier. En homme de tête et de sens, il avait cherché à rétablir la popularité de son nom, si gravement compromise, et à relever la réputation des Crawley de l'abaissement où l'avait plongé la conduite honteuse du vieux réprouvé auquel il succédait. Peu après la mort de son père, Sir Pitt fut nommé député par les électeurs de son bourg et fit tous ses efforts pour remplir dignement le mandat qui lui était confié en souscrivant toujours pour une forte somme dans toutes les œuvres de bienfaisance du comté. Il alla rendre de fréquentes visites aux gros bonnets de la localité et n'omit aucun moyen pour prendre dans le Hampshire et dans le royaume le rang auquel il se croyait appelé par ses prodigieuses capacités. Lady Jane, d'après les instructions de son mari, se lia d'intimité avec les Fuddleston et les Wapshot et autres baronnets du voisinage. On pouvait maintenant voir leurs voitures se presser vers l'avenue du château, et tous étaient contents de s'asseoir à la table du château, dont la cuisine était trop bonne pour que Lady Jane y eût été pour quelque chose. Pitt et sa femme allaient à leur tour dîner chez leurs voisins, avec un courage qui surmontait et la distance et l'inclémence du ciel. Bien que Sir Pitt ne fût point ce qu'on appelle un bon vivant, car il était d'un caractère froid et la faiblesse de son tempérament s'opposait à tout excès, il se regardait cependant comme obligé par sa position à être affable et accueillant pour tous. Et lorsqu'une migraine ou un mal de tête était pour lui la conséquence d'un dîner trop prolongé, il se posait alors en martyr de son devoir. Il parlait agriculture, loi sur les céréales et politique avec la petite noblesse du comté. En fait de braconnage, il professait maintenant une rigueur inflexible, lui qui, jadis, aurait pu sur ce point passer pour avoir les idées très libérales. Ce n'était pas qu'il chassât ou qu'il aimât la chasse. Ses goûts calmes et paisibles le disposaient plutôt aux études et aux travaux de cabinet. Mais il pensait qu'il fallait travailler à l'amélioration de la race chevaline dans le comté, et pour cela veiller à la conservation des renards. Il était de plus enchanté de procurer à son ami Sir Huddleston Fuddleston l'occasion de faire une battue sur ses terres et de voir, comme par le passé, toutes les meutes des environs se réunir à Crawley-la-Reine. Au grand déplaisir de Lady Southdown, il manifestait chaque jour des tendances de plus en plus anglicanes, ne prêchant plus en public, et ne paraissant plus dans les réunions dissidentes, mais se rendant, comme tout le reste des fidèles, à l'église officielle. Il faisait visite à l'évêque, fréquentait tout le clergé de Winchester, et il poussait même la condescendance jusqu'à faire la partie de whist du vénérable archidiacre Tromper. Quel supplice pour Lady Southdown de le voir suivre une foi en si grande opposition avec le véritable Esprit de Dieu. Ce fut bien pis encore lorsque, au retour d'une cérémonie religieuse qui eut lieu à Winchester, le baronnet annonça à ses jeunes sœurs que l'année suivante, il les conduirait au bal du comté. Elles lui auraient volontiers sauté au cou pour l'embrasser. En cette circonstance, Lady Jane se renferma dans son rôle de soumission. Combien elle s'applaudissait intérieurement de n'avoir qu'à obéir. La vieille douairière écrivit sans retard au cap à l'auteur de la blanchisseuse de Finchley Common et lui fit la plus lamentable description des entraînements de sa fille cadette vers les pompes de Satan. Sa maison de Brighton se trouvant alors vacante, elle s'enfuit dans cette retraite au bord de la mer sans que son départ laissât de bien grands regrets à ses enfants. Nous sommes assez bien informés pour savoir aussi que Rebecca écrivit une lettre respectueuse à Milady, où elle se rappelait humblement à son souvenir, et lui parlait de la vive impression que ses pieux entretiens avec elle, à sa précédente visite, avaient laissé dans son cœur. Elle s'étendait aussi très longuement sur les marques d'intérêt que Milady lui avait données lors de sa courte indisposition, et l'assurait que tout à Crawley-la-Reine lui rappelait son amie absente. Les changements que l'on pouvait remarquer dans la conduite de Saint Pitt, et qui profitaient si bien à sa popularité, étaient en grande partie le résultat des conseils de l'astucieuse petite femme de Curzon Street. « Non, Saint Pitt, lui disait-elle, pendant tout le temps qu'il fut chez elle à Londres, vous ne vous confinerez point dans le rôle de gentilhomme compagnard. Rappelez-vous bien ce que je vous dis, Saint Pitt, c'est moi qui vous le dis. Il vous faut quelque chose de plus élevé. » Je vous parle comme une personne qui a mieux que vous le secret de votre ambition, qui sait apprécier vos talents. Vous chercheriez en vain à les mettre sous le boisseau, ils éclatent aux yeux de tous ceux qui vous approchent, comme ils ont éclaté aux miens. J'ai montré à Lord Steyne votre brochure sur les céréales. Il la connaissait déjà à fond, et m'a dit que le Conseil des ministres était unanime pour la regarder comme le travail le plus sérieux et le plus complet qui ait paru sur cette matière. Le ministre a les yeux sur vous, et je sais qu'il désire vous voir prendre une part active aux affaires. Votre place est marquée au Parlement, vous passez pour l'homme le plus éloquent de l'Angleterre, on se souvient encore de vos discours à Oxford. Allez, allez à la Chambre, représentez les intérêts du comté, et vous y serez maître souverain avec le vote et le bourg dont vous disposez déjà. J'ai tout vu, j'ai pénétré les secrets de votre cœur, Sir Pitt, et si mon mari avait votre intelligence, comme il a votre nom, je suis sûr que j'aurais encore su me rendre digne de lui. Mais, ajoutait-elle avec un sourire, je suis du moins votre belle-sœur, et à ce titre, malgré l'humilité de ma condition, je vous porte le plus tendre intérêt. Qui sait si la souris ne pourra pas un jour rendre service au lion ? Ces paroles laissaient Pitt Crawley dans l'admiration et l'enthousiasme. « Voilà au moins, disait-il en lui-même, une femme qui vous comprend. Ce n'est pas Jane qui aurait ouvert cette brochure sur les céréales. Elle qui n'a pas l'air de se douter de mon ambition et de mes talents. Ah ah, on se rappelle mes discours à Oxford. Ah, messieurs, parce que je dispose d'un bourg et que j'ai un siège au Parlement, vous commencez à penser à moi. » Ce Lord Steyne, qui l'année dernière ne daignait pas m'honorer d'un coup d'œil à la cour, a fini par découvrir qu'il pouvait bien y avoir quelque chose dans Pitt Crawley. Mais cependant, c'est le même homme, mes beaux messieurs, que vous négligiez naguère encore. L'occasion seule jusqu'ici avait manqué. Allez, allez, on vous montrera qu'on sait parler et agir aussi bien qu'on écrit. Achille ne se révéla qu'après qu'on lui eut présenté des armes. Ces armes qui m'avaient manqué jusqu'ici, je les tiens maintenant, et le monde aura bientôt des nouvelles de Pitt Crawley. On comprendra pourquoi notre diplomate, naguère si revêche, se montrait désormais si facile et si affable, si assidu aux services religieux et aux assemblées de bienfaisance, si empressé auprès des doyens et des chanoines, si disposé à donner et à accepter à dîner, si poli à l'égard des fermiers les jours de marché, si préoccupé des affaires du comté, pourquoi enfin, aux fêtes de Noël, le château offrit le spectacle d'une animation et d'une gaieté inusitées depuis de longues années. On profita de cette solennité pour réunir toute la famille. Les Crollet du rectorat furent invités au château. Rebecca mit autant d'abandon et de franchise dans ses rapports avec Mrs. Bute que si le moindre nuage ne s'était jamais élevé entre ces deux femmes. Rebecca s'occupa de ses chères demoiselles avec le plus vif intérêt et se montra tout émerveillée de leurs progrès en musique. Elle les pria avec instance de répéter un de leurs grands duos et Mrs. Bute fut naturellement contrainte de montrer toute espèce d'égard à la petite aventurière, sauf à critiquer ensuite avec ses filles la déférence ridicule que Pitt témoignait à sa belle-sœur. Jim, placé à la table à côté d'elle, déclara que c'était une véritable enchanteresse, et toute la famille du recteur tomba d'accord que le petit Rodon était un charmant enfant. On respectait en lui l'héritier éventuel au titre de baronnet, car entre lui et ce titre, il n'y avait qu'un enfant malingre et souffreteux, le petit Pitt Binky. Quant aux enfants, ils furent bientôt les meilleurs amis du monde. Pitt Binky était encore trop petit roquet pour oser aller se frotter à un mâtin de la taille de Rodon. Et Mathilde, à cause de son sexe, était l'objet des galanteries de son jeune cousin, à la veille d'avoir ses 8 ans et de porter des vestes. Par les prérogatives de l'âge et de la taille, Rodon obtint donc le commandement de la troupe des marmots, et ses 2 jeunes compagnons lui témoignèrent dans leur jeu toute espèce de condescendance. Ce temps passé à la campagne fut pour lui un véritable temps de fêtes et de plaisirs. Le parterre le charmait moins que la basse-cour. Aussi son plus grand bonheur était-il de visiter le colombier, le poulailler et l'écurie. Il se débattait toutes les fois que les demoiselles Crollet voulaient l'embrasser, mais il se laissait faire plus volontiers par Lady Jane. Il aimait à partir avec elle au moment où les dames laissaient les messieurs en tête-à-tête avec le Bordeaux, et préférait même sa main à celle de sa mère. Rebecca, s'apercevant que la tendresse maternelle était de mode au château, appela un soir son fils sur ses genoux et l'embrassa devant toutes les autres dames. Tout surpris de cette étrange démonstration, l'enfant se prit à trembler et à rougir en regardant sa mère, comme il lui arrivait lorsqu'il était fortement ému. « Vous ne m'embrassez jamais comme ça, maman, lui dit-il, quand nous sommes chez nous. » Cette remarque fut suivie d'un profond silence. Chacun semblait mal à l'aise, et Becky lança à son fils un regard qui n'exprimait pas précisément la tendresse. Rodon était fort reconnaissant à sa belle-sœur pour l'affection qu'elle témoignait à son fils. Quant à Lady Jane et à Becky, il n'y eut pas cette fois dans leur rapport cette amitié et ce laisser-aller qu'on avait pu remarquer à la première visite de Rebecca, alors qu'elle s'efforçait de se concilier les bonnes grâces de tous. Les 2 réflexions du petit Rodon avaient jeté un peu de froid entre ces 2 femmes. Peut-être aussi Sir Pitt se montrait-il trop plein d'attention pour Becky. Le petit Rodon, du reste, comme il convenait à son âge et à sa taille, préférait la société des hommes à celle des femmes et ne se lassait jamais d'accompagner son père à l'écurie lorsque le colonel allait y fumer son cigare et que Jim se joignait à lui pour partager cette distraction. Rodon était aussi très intime avec le garde-chasse du baronnet. Leur goût commun pour les chiens fut le principe de cette touchante liaison. Un jour, M. James, le colonel et le garde-chasse étant allés tuer des faisans, emmenèrent avec eux le petit Rodon. Une autre fois, ces 4 personnages se donnèrent le plaisir d'une chasse aux rats dans un grenier. Ce fut pour le petit Rodon une distraction aussi neuve que divertissante. On boucha certaines issues dans la grange, on introduisit les furets dans les autres et, au milieu du plus grand silence, chacun attendit à son poste, le bâton levé et prêt à frapper. Le petit terrier de M. James, le célèbre forceps, se tenait immobile et la patte en l'air, écoutant avec une grande anxiété les petits cris poussés par les rats dans leur tanière. Enfin, avec le courage du désespoir, ces victimes vouées à la mort s'élancèrent de leur souterrain. Le terrier se chargea de l'un, le garde-chasse assomma l'autre, et le petit Rodon, dans son ardeur à frapper, manqua de tuer un furet. Mais la grande journée fut celle d'une chasse à court, pour laquelle Sir Huddleston Faddleston rassembla ses meutes à Crollet-la-Reine. Le petit Rodon était dans l'extase de ce coup d'œil. à 10h30, Tom Moody, le piqueur de Sir Huddleston Fuddleston, arrivait au grand trot par l'avenue du château, escorté d'une meute nombreuse. Les traîneurs étaient stimulés par deux valets en livrée écarlate, deux robustes gaillards qui, de leur vigoureuse monture, lançaient avec une adresse merveilleuse les coups de fouet aux récalcitrants et savaient atteindre à l'endroit sensible ceux qui, s'écartant du gros de la bande, donnaient aux lièvres et aux lapins qui leur partaient sous le nez une attention déplacée. Voici ensuite le petit Jack, fils de Tom Moody, pesant 50 livres et ayant 4 pieds de taille, hauteur qu'il ne doit jamais dépasser. Il est perché sur un grand cheval de chasse, auquel on peut compter les côtes et qui est couvert d'une selle énorme. C'est l'animal favori de Sir Huddleston Fuddleston. D'autres chevaux montés par de jeunes grooms arrivent dans toutes les directions, précèdent leurs maîtres qui ne tarderont pas à les rejoindre. Tom Moody s'avance jusqu'à la porte du château. Là, il est reçu par le sommelier, qui lui offre un coup, ce qu'il refuse. Puis, toujours à la tête de sa meute, il va se placer dans un coin réservé de la pelouse, où ses chiens se roulent sur l'herbe, jouent entre eux et se montrent les dents, ce qui pourrait dégénérer en des luttes sanglantes s'ils n'étaient pas réprimés par la voix de Tom, dont les paroles sont soutenues par l'argument irrésistible du fouet. Les chevaux arrivent toujours portant sur leur dos de petits garçons de la taille de Jack. Ils ne tardent pas à être suivis des jeunes seigneurs du voisinage, crottés jusqu'aux genoux et montés sur des rosses efflanquées. Ils entrent dans le château pour boire une goutte d'eau-de-vie et présenter aux dames leurs hommages. Ceux qui sont d'une humeur moins chevaleresque ou qui ont plus l'usage des parties de chasse se débarrassent de leurs bottes crottées, enfourchent leurs chevaux et se réchauffent le sang par un galop préparatoire sur la pelouse. Puis ensuite, ils se rassemblent autour de la meute et causent avec Tom Moody des événements de la dernière partie, des mérites de Briffaut et de Tartareau, de la position des fourrés et de la rareté des renards. Bientôt apparaît Sir Huddleston monté sur un fringant coursier. Il se dirige vers le château, où il entre pour présenter ses civilités aux dames. Puis, comme il est très ménagé de ses paroles, il s'occupe aussitôt des dispositions à prendre pour la chasse. On amène les chiens devant le château. Le petit Rodon descend pour les voir de plus près. Les caresses qu'ils lui font lui causent un certain effroi. Il a peine à se défendre contre leurs coups de queue et manque à chaque instant d'être renversé au milieu de leur lutte que Tom Moody a toutes les peines du monde à réprimer du geste et de la voix. Enfin, Sir Huddleston, avec toute la lourdeur dont il est capable, a enfourché son coursier favori. « Allons, Tom, dit le baronnet, poussons une reconnaissance du côté de la croix du diable. Le fermier Mangle m'a assuré qu'il avait vu de ce côté deux renards. » Tom Moody sonne alors une fanfare et s'élance au trot, suivi de la meute, des piqueurs, des jeunes gens de Winchester, des fermiers du voisinage et de tous les gens de la campagne qui assistent à la chasse en sabots et pour qui ce jour est une véritable fête. Sir Huddleston forme l'arrière-garde avec le colonel et tout le cortège se déroule dans les profondeurs de l'avenue. Le révérend Bute Corley a trop le sentiment des convenances pour se montrer en équipage de chasse sous les fenêtres de son neveu. Aussi, au détour d'une allée, il débouche comme par hasard, monté sur son vigoureux cheval noir, au moment où Sir Huddleston passe avec toute la chasse. Bute se joint au digne baronnet, et le cortège a bientôt disparu, aux yeux émerveillés du petit Rodon, qui reste encore quelques minutes tout ébahi sur le perron. Si l'on ne peut dire que, dans le cours de ce mémorable voyage, le petit Rodon ait acquis l'affection particulière de son oncle, naturellement froid et sévère, toujours enfermé dans son cabinet, plongé dans les livres de loi, entouré de baillis et de fermiers, du moins il réussit à se concilier les bonnes grâces de ses trois tantes, la châtelaine et les deux sœurs de Pitt, des deux enfants du château et de Jim, dont Sir Pitt encourageait les démarches auprès de l'une de ses jeunes sœurs, en lui faisant entendre d'une manière non équivoque qu'il le présenterait pour succéder à son père quand le fort chasseur de renards viendrait à laisser la place vacante. Jim avait pour sa part renoncé à ce genre de divertissement. Il se contentait de chasser la bécassine et le canard sauvage ou bien de faire la guerre aux rats pendant les congés de Noël. Puis, lorsqu'il retournera à l'université, il tâchera de s'y faire bien noter. Il a déjà dépouillé les habits verts, les cravates rouges et toutes les parures qui sentent le monde. On voit qu'il se prépare à changer de condition. C'est ainsi que Sir Pitt cesse à quitter de ses devoirs de famille d'une façon économique et facile. Avant la fin des fêtes de Noël, le baronnet avait fini par prendre l'héroïque résolution de donner à son frère un nouveau mandat sur ses banquiers. Ce petit cadeau ne s'élevait pas à moins de 100 livres sterling. Dans le premier moment, il en avait beaucoup coûté à Sir Pitt pour se décider à cet acte de générosité. Mais une douce satisfaction s'était ensuite emparée de lui à la pensée qu'il était le plus magnifique et le plus libéral des hommes. Rodan et son fils partirent le cœur bien gros. Les dames furent presque bien aises de se quitter. Becky alla de nouveau se livrer à Londres, aux occupations au milieu desquelles nous l'avons trouvée au commencement du chapitre précédent. Grâce à son active surveillance, l'hôtel Crawley, Great Gaunt Street, fut en quelque sorte rajeuni et se trouva prêt à recevoir Sir Pitt et sa famille lorsque le baronnet arriva dans la capitale pour y remplir ses devoirs parlementaires et prendre dans le pays la haute position à laquelle le désignait son vaste génie. Dans le cours de la première session, ce vétéran de la diplomatie ne laissa rien transpirer de ses projets et n'ouvrit les lèvres que pour présenter une pétition des habitants de Mudbury. Mais on le voyait fort assidu aux séances, comme un homme qui veut se mettre au courant de la routine et des affaires de la chambre. Chez lui, il s'absorbait dans la lecture de toutes les brochures qui paraissaient. La pauvre Lady Jane était dans des transes mortelles. Elle craignait de voir son mari perdre la santé par l'excès d'éveil et du travail. Pitt se lia avec les ministres et les chefs de son parti, bien résolu à prendre rang d'ici à peu d'années parmi les sommités de la chambre. Le caractère doux et timide de Lady Jane avait inspiré à Rebecca un mépris que cette petite créature avait peine à dissimuler. La bonté simple et ouverte de Lady Jane fatiguait notre amie Becky, et il était impossible qu'il n'en transpirât pas quelque chose et que l'on ne finît pas par s'en apercevoir. Sa présence était aussi pour Lady Jane un motif de gêne et de contrainte. Son mari ne se lassait point de causer avec Becky. Elle avait cru remarquer entre eux des signes d'intelligence, tandis que Pitt n'avait jamais rien à lui dire et ne traitait jamais avec elle de si hautes questions. Il est vrai qu'elle n'y comprenait rien, mais il est toujours mortifiant d'en être réduit à se taire, de sentir que le mieux qu'on puisse faire, c'est de garder le silence. Et cela quand une petite intrigante comme Mrs. Rodan sait effleurer tous les sujets, a une réponse toujours prête, et ne manque ni de finesse dans la raillerie, ni d'à propos dans le trait. La solitude et le délaissement paraissent plus pénibles et plus cruels encore par le spectacle de ce monde de flatteurs qui se presse autour d'une rivale. À la campagne, lorsque Lady Jane racontait des histoires aux enfants accoudés sur ses genoux, y compris le petit Rodan qui avait pour elle une grande affection, Becky n'avait qu'à entrer dans la chambre avec son sourire satanique et son coup d'œil méprisant pour que la verve conteuse de la pauvre Lady Jane se trouvât aussitôt tarie. Toutes ses candides et naïves idées se dispersaient alors sous une impression de crainte, comme ces jolies fées des livres de l'enfance s'enfuient à l'approche d'un mauvais génie. Il lui était impossible d'aller plus loin, en dépit des exhortations de Rebecca, qui, d'un ton moqueur, l'engageait à continuer sa délicieuse histoire. Les douces pensées, les joies pures et simples, étaient insupportables à Mrs. Becky et antipathiques à son humeur. Elle détestait les gens qui y trouvaient leur plaisir. Elle n'avait que dédain pour l'enfance et ceux qui aiment l'enfance. C'est bon pour ceux que cela amuse, de faire des contes bleus aux enfants, disait-elle à Lord Steyne en caricaturant Lady Jane au milieu de son cercle de bambins. Mais je ne puis souffrir cet étalage de sensiblerie maternelle. Pas plus que le diable n'aime l'eau bénite, répondit le noble lord avec une grimace qui, sur sa figure, était l'expression du rire. Aussi, ces deux dames ne cherchaient pas beaucoup à se voir, si ce n'était quand la femme du frère cadet avait à mettre à contribution celle du frère aîné. Elles ne se voyaient jamais sans s'appeler « mon amour » et « mon cœur », mais elles s'évitaient le plus possible. Quant à Sir Pitt, à travers les occupations qui le surchargeaient, il savait encore trouver quelques instants dans la journée pour se rencontrer avec sa belle-sœur. Avant de se rendre à l'un de ses premiers dîners officiels, il s'était arrangé de manière à se faire voir à sa belle-sœur, sous l'uniforme et avec les insignes diplomatiques qu'il portait à la légation de Poupernickel. Becky trouva que son costume lui allait à merveille et l'admira presque autant que sa femme et ses enfants, auxquels il avait donné une représentation particulière. Il était une fois de plus pour elle, à ce qu'elle lui dit, la preuve évidente que pour bien porter l'habit et la culotte de cour, il fallait être de race. Ne se sentant pas d'aise de ces paroles, Pitt donna un coup d'œil complaisant à ses mollets, qui, à vrai dire, étaient aussi minces que la courte épée qui lui battait le flanc. Et il n'hésitait pas à croire qu'avec de tels auxiliaires, il n'était pas un cœur qui pût lui résister. À peine eut-il le dos tourné, que Mrs. Rawdon fit sa caricature, qu'elle montra à Lord Steyne dès qu'il fut arrivé. Le noble Lord emporta cette esquisse, tout émerveillé de sa ressemblance avec l'original. Il avait fait à Sir Pitt Crawley l'honneur de le reconnaître chez Mrs. Becky, et avait traité de la manière la plus gracieuse le nouveau baronnet, membre du Parlement. Pitt fut frappé de l'ascendant que sa belle-sœur exerçait sur le noble père, de la manière facile et vive avec laquelle elle se mêlait à la conversation, du plaisir que les autres hommes de sa société paraissaient prendre à l'écouter. Lord Steyne n'avait-il pas dit au baronnet qu'il ne doutait pas qu'il fût appelé à fournir une brillante carrière dans la vie publique, et qu'on attendait avec impatience son premier discours pour juger de ses qualités oratoires? Great Gaunt Street tire son nom d'un palais des Lord Steyne situé dans Gaunt Square. Par suite de ce voisinage, Milord espérait que dès son arrivée à Londres, Lady Steyne s'empresserait d'établir des rapports d'amitié avec Lady Crawley. Au bout de 2 jours, il mit sa carte chez son voisin, bien que les deux familles vécussent depuis plus d'un siècle dans le même voisinage, sans que l'une daignât seulement s'enquérir de l'existence de l'autre. Au milieu de ces intrigues, de ces réunions élégantes de gens d'esprit et de nobles personnages, Rawdon sentait chaque jour davantage le vide et l'isolement dans lesquels il vivait. On le poussait de plus en plus à aller au club, à faire des dîners de garçons avec ses anciens amis, à aller et venir suivant son bon plaisir, sans que jamais on le soumît à ce sujet à la moindre enquête. Il allait souvent à Gaunt Street avec son petit garçon, et restait là avec Lady Jane et ses enfants, tout le temps que Sir Pitt restait à la Chambre des communes, ou mettait à en revenir. L'ex-colonel passait des heures entières dans l'hôtel de son frère, parlant peu, ne bougeant point, et pensant moins encore. On ne pouvait lui faire plus grand plaisir que de le charger d'une commission, de l'envoyer aux informations sur un domestique ou sur un cheval, de le prier de découper les morceaux pour le dîner des enfants. Le taureau était dompté et se pliait aux joues. Dalila avait fait tomber la chevelure de Samson et chargé ses membres de chaînes. À la place de cet étourdi dont le sang brûlait ses veines il y a 10 ans, il n'y avait plus qu'un gentilhomme lourd, épais et grisonnant. La pauvre Lady Jane savait que Rebecca avait attelé Sir Pitt à son char, et cependant, toutes les fois qu'elle rencontrait Mrs. Rawdon, ces deux femmes ne manquaient pas de s'appeler « ma chère » ou « mon cœur ».